Versailles vocifère mais paraît isolé. La révolution se répand en province. La commune est proclamée à Limoges, Toulouse, Narbonne, Le Creusot, Saint-Étienne, Lyon et Marseille. Dans de nombreuses villes et villages, l'armée fraternise avec la foule.
La Commune a beau être entrée dans l'histoire comme celle de Paris, elle a, comme toutes les révolutions, suscité une dynamique bien au-delà. Selon de récents travaux d'historiens, plus de la moitié des dépêches internationales de la presse mondiale, entre mars et mai 1871, traitaient de ce qui se passait dans Paris. Mais un petit retour en arrière s'impose. Car contrairement à ce que suggère l'extrait du film qu'on vient de voir, ou cette caricature, à Marseille et à Lyon, on n'a pas attendu Paris et le 18 mars 1871 pour entrer en révolte. Dès août 1870, des républicains proclament une première fois une commune dans ces deux villes. Bon, ça n'a pas duré plus de quelques heures. Mais le 4 septembre, rebelote. Cette fois, c'est carrément la République qui est proclamée à Lyon, et ce, avant même qu'un gambetta hésitant se résolve à en faire autant à Paris, sous la pression des masses. À Marseille, toujours le 4 septembre, le préfet représentant encore le Second Empire prend la fuite si vite que sa femme oublie d'emmener ses bijoux. Il faut dire que 20 000 Marseillais envahissent peu après la préfecture. À peine installé, le gouvernement de défense nationale de Gambetta dépêche des représentants dans les principales villes du pays et partout où l'agitation menace. À Marseille, la mobilisation des travailleurs est telle que les syndicats, jusqu'alors interdits, constituent ouvertement une fédération légale. Une garde civique de 20 000 membres est créée. Ses buts politiques restent flous, mais elle est largement influencée par les dirigeants ouvriers et fait peur à Gambetta. Au-delà de Marseille, des délégués de villes du Sud-Est, de la Provence au Languedoc, constituent une ligue du Midi d'une nuance républicaine plus radicale que son gouvernement. Cette ligue lui impose au gouvernement, sous la menace de retourner ses armes contre lui, rien de moins qu'une autonomie militaire au nom de la lutte contre l'invasion prussienne. Le mot d'ordre de l'autonomie communale pouvait-il alors constituer un moyen de renverser le pouvoir bourgeois et lancer la révolution sociale ? C'est en tout cas la carte que joue à la fin du mois de septembre 1870 l'anarchiste russe en exil Mikhaïl Bakounine et quelques autres membres de l'AIT, la Première Internationale. Ils rédigent, avec des républicains radicaux lyonnais, une affiche proclamant l'abolition de l'État, son remplacement par une fédération de communes autonomes, et ils appellent à une convention, c'est-à-dire une réunion de ces communes fédérées, dans le but d'établir un nouveau pouvoir, révolutionnaire celui-là, à Lyon. Le 28 septembre, ils prennent donc d'assaut avec quelques centaines de manifestants l'hôtel de ville de Lyon pour en faire le QG de la future convention. Mais ils en sont presque aussitôt chassés, faute de soutien des faubourgs ouvriers lyonnais. Il semble que ces ouvriers aient hésité à renverser une municipalité qui vient tout juste de supprimer les taxes municipales d'octroi qui frappaient jusque-là toute marchandise entrant sur le territoire communal. Par la suite, les adversaires de Bakounine au sein de l'AIT lui reprocheront d'avoir lancé la section lyonnaise dans une aventure et coupé l'AIT des masses ouvrières. Cela n'empêche néanmoins pas Lyon de connaître deux soulèvements en novembre et en janvier. En fait, jusqu'à la répression de la Commune de Paris en mai 1871, le gouvernement n'est absolument pas sûr de ses forces. Par exemple, Jean, nommé préfet fin octobre 1870 à Marseille pour dissoudre la Ligue du Midi et rétablir l'autorité du gouvernement. Et ce genre remplace lui-même un premier préfet trop proche des ouvriers au goût de Gambetta. Eh bien, il annonce au ministre Jules Favre, après la signature de la paix à Versailles fin janvier 1871, qu'il n'obéit pas au capitulé de Bismarck. Dans son ouvrage « Commune de province, commune de Paris », Jeanne Gaillard souligne au demeurant que les négociants lyonnais et marseillais se gardent bien jusqu'en mars suivant de mettre des bâtons dans les roues des agitateurs fédéralistes, car leurs intérêts de capitalistes régionaux coïncident partiellement avec l'opposition à la centralisation parisienne. En fait, la clarification politique a lieu lorsque le gouvernement fuit la capitale, suivi par les bourgeois parisiens, et la laisse aux mains des classes laborieuses. Il devient alors clair pour tous que les communes sont le drapeau d'un pouvoir ouvrier. Dans la semaine suivant le 18 mars, des communes sont proclamées, on l'a vu, à Toulouse, Lyon, Marseille, Saint-Étienne, au Creusot, à Narbonne ou encore à Nîmes. En avril, des mouvements insurrectionnels ont lieu à Limoges, la Charité-sur-Loire, à Cône et Saint-Amand dans le Cher ou encore à Voiron, Saint-Marcellin et Tulin dans le département de l'Isère. et une foule d'autres villes, voire parfois de villages, sont le théâtre d'événements comme des drapeaux rouges hissés, des défilés. On tient des réunions, on tente en fait l'impossible pour entraver la montée des troupes promises au sale boulot de la répression de la Commune de Paris. Mais aucun de ces mouvements ne dure plus de quelques jours. Ici, les insurgés se dispersent, constatant leur faiblesse, alors que la menace de la répression se précise. Là, ils sont écrasés dans le sang, comme à Narbonne le 31 mars. Alors, les communes de Paris et d'ailleurs sont-elles mortes de leur isolement? Ben oui et non. Indéniablement, le manque de coordination entre les insurgés des différentes localités aide le gouvernement de Thiers, quoique faible encore, à les vaincre séparément, précisément parce que lui est centralisé. Mais l'isolement de Paris est tout relatif. Certes, les communications sont gênées, mais au prix de quelques mesures de discrétion au moment de franchir les lignes prussiennes ou versaillaises, il est possible de faire circuler les informations et même de se déplacer. En avril, Paul Lafargue n'a aucun mal à faire le trajet de Bordeaux à Paris pour venir voir la commune de ses yeux. Des émissaires de grandes villes accourent à Paris après le 18 mars et ils rentrent chez eux sans encombre. Mais cette circulation ne signifie pas pour autant que les insurgés sont organisés. Jean-Baptiste Dumay, leader ouvrier du Creusot, raconte ainsi que c'est la nouvelle de la commune de Toulouse qui, donnant l'impression trompeuse d'un élargissement au midi, convainc le comité socialiste du Creusot d'emboîter le pas à Paris. L'illusion est vite dissipée et la débâcle de la commune du Creusot est tout aussi rapide. Alors on peut se demander ce qu'il serait advenu si Thiers n'avait pu reconstituer une armée après l'effondrement de ses troupes dans Paris, car plusieurs témoins le décrivent. Nombre des soldats de l'armée régulière rallient Versailles le 18 mars entre deux haies de gendarmes. Certains chantent des chants révolutionnaires et menacent de faire un sort à leurs officiers. Au 20 mars, le gouvernement est complètement vulnérable à une offensive de la garde nationale parisienne. Alors bien sûr, pas une offensive strictement militaire, car cette garde n'a jamais rivalisé avec des troupes menées par des professionnels de la guerre, mais bien une offensive politique. Thiers l'avoue plus tard, « Sans le concours que me prêtèrent les maires et quelques députés de Paris, lesquels amusèrent 10 jours durant les gens de l'hôtel de ville, nous étions perdus. » Le 3 avril, répondant à une provocation versaillaise, la garde nationale lance un assaut. Mais il est déjà trop tard, les officiers versaillais ont repris leurs troupes en main.